Autrefois, j'eusse préféré que cette promenade eût lieu par le mauvais temps. Alors je cherchais à retrouver dans Balbec le pays des Cimériens. Et de belles journées étaient une chose qui n'aurait pas dû exister là. Une intrusion du vulgaire été des baigneurs dans cette antique région voilée par les brumes. Mais maintenant, tout ce que j'avais dédaigné, écarté de ma vue, non seulement les effets de soleil, mais même les régates, les courses de chevaux, je l'eusse recherché avec passion pour la même raison qu'autrefois je n'aurais voulu que des mers tempétueuses, et qui étaient qu'elles se rattachaient les unes comme autrefois les autres à une idée esthétique. C'est qu'avec mes amis, nous étions quelquefois allés voir Elstir, et les jours où les jeunes filles étaient là, ce qu'il avait montré de préférence, c'était quelques croquis d'après de jolies yachts women, ou bien une esquisse prise sur un hippodrome voisin de Balbec. J'avais d'abord timidement avoué à Elstir que je n'avais pas voulu aller aux réunions qui y avaient été données. « Vous avez eu tort, » me dit-il. « C'est si joli et si curieux aussi. » D'abord, cet être particulier, le jockey, sur lequel tant de regards sont fixés, et qui devant le paddock est là, morne, grisâtre dans sa casaque éclatante, ne faisant qu'un avec le cheval caracolant qu'il ressaisit, comme ce serait intéressant de dégager ses mouvements professionnels, de montrer la tache brillante qu'il fait et que fait aussi la robe des chevaux sur le champ de course. Quelle transformation de toute chose dans cette immensité lumineuse d'un champ de course où on est surpris par tant d'ombres de reflets qu'on ne voit que là. Ce que les femmes peuvent y être jolies. La première réunion surtout était ravissante. Il y avait des femmes d'une extrême élégance dans une lumière humide, hollandaise, où l'on sentait monter dans le soleil même le froid pénétrant de l'eau. Jamais je n'ai vu les femmes arrivant en voiture, ou leurs jumelles aux yeux, dans une pareille lumière qui tient sans doute à l'humidité marine. Oh, que j'aurais voulu la rendre! Je suis revenue de ces courses fous avec un tel désir de travailler! Puis il s'extasia plus encore sur les réunions de yachting que sur les courses de chevaux, et je compris que des régates, que des meetings sportifs où des femmes bien habillées baignent dans la glauque lumière d'un hippodrome marin pouvaient être, pour un artiste moderne, un motif aussi intéressant que les fêtes qu'ils aimaient tant à décrire pour un Véronèse ou un Carpaccio. « Votre comparaison est d'autant plus exacte, » me dit Elstir, « qu'à cause de la ville où il peignait, ces fêtes étaient pour une part nautiques. » Seulement, la beauté des embarcations de ce temps-là résidait le plus souvent dans leur lourdeur, dans leurs complications. Il y avait des joutes sur l'eau, comme ici, données généralement l'honneur de quelque ambassade, pareille à celle que Carpaccio a représentée dans la légende de Sainte-Ursule. Les navires étaient massifs, construits comme des architectures, et semblaient presque amphibies, comme de moindres Venises au milieu de l'autre, quand, amarrés à l'aide de ponts volants, recouverts de satin cramoisi et de tapis persans, ils portaient des femmes en brocart cerise ou en dames à verre, tout près des balcons incrustés de marbre multicolore, où d'autres femmes se penchaient pour regarder, dans leurs robes aux manches noires à crevés blancs serrées de perles ou ornées de guipures. On ne savait plus où finissait la terre, où commençait l'eau. Qu'est-ce qui était encore le palais ou déjà le navire, la caravelle, la galéasse, le bucentaure? Albertine écoutait avec une attention passionnée ces détails de toilette, ces images de luxe que nous décrivait Elstir. Oh, je voudrais bien voir les guipures dont vous me parlez. C'est si joli le point de Venise, s'écriait-elle. D'ailleurs, j'aimerais tant aller à Venise. « Vous pourrez peut-être bientôt, lui dit Elstir, contempler les étoffes merveilleuses qu'on portait là-bas. On ne les voyait plus que dans les tableaux des peintres vénitiens, ou alors très rarement dans les trésors des églises, parfois même il y en avait une qui passait dans une vente. Mais on dit qu'un artiste de Venise, Fortuny, a retrouvé le secret de leur fabrication, et qu'avant quelques années les femmes pourront se promener, et surtout rester chez elles, dans des brocarts aussi magnifiques que ceux que Venise ornait pour ses patriciennes avec des dessins d'Orient. Mais je ne sais pas si j'aimerais beaucoup cela, si ce ne sera pas un peu trop costume anachronique pour des femmes d'aujourd'hui, même paradant aux régates. Car pour en revenir à nos modernes bateaux de plaisance, c'est tout le contraire que du temps de Venise, reine de l'Adriatique. Le plus grand charme d'un yacht, de l'ameublement d'un yacht, des toilettes de yachting, est leur simplicité de choses de la mer, et j'aime tant la mer. Je vous avoue que je préfère les modes d'aujourd'hui aux modes du temps de Véronèse et même de Carpaccio. Ce qu'il y a de joli dans nos yachts, et dans les yachts moyens surtout, je n'aime pas les énormes, trop navires, c'est comme pour les chapeaux, il y a une mesure à garder. C'est la chose unie, simple, claire, grise, qui, par les temps voilés, bleuâtres, prend un flou crémeux. Il faut que la pièce où l'on se tient ait l'air d'un petit café. Les toilettes des femmes sur un yacht, c'est la même chose. Ce qui est gracieux, ce sont ces toilettes légères, blanches et unies, en toile, en lino, en pékin, en coutil, qui, au soleil et sur le bleu de la mer, font un blanc aussi éclatant qu'une voile blanche. Il y a très peu de femmes du reste qui s'habillent bien, quelques-unes pourtant sont merveilleuses. Aux courses, Mademoiselle Léa avait un petit chapeau blanc et une petite ombrelle blanche, c'était ravissant. Je ne sais pas ce que je donnerais pour avoir cette petite ombrelle. J'aurais tant voulu savoir en quoi cette petite ombrelle différait des autres, et pour d'autres raisons de coquetterie féminine, Albertine l'aurait voulu plus encore. Mais comme Françoise qui disait pour les souffler, c'est un tour de main. La différence était dans la coupe. C'était, disait Elstir, tout petit, tout rond, comme un parasol chinois. Je citais les ombrelles de certaines femmes, mais ce n'était pas cela du tout. Elstir trouvait toutes ces ombrelles affreuses. Homme d'un goût difficile et exquis, il faisait consister dans un rien qui était tout. La différence entre ce que portaient les trois quarts des femmes et qui lui faisait horreur, et une jolie chose qui le ravissait, et, au contraire de ce qui m'arrivait à moi pour qui tout luxe était stérilisant, exaltait son désir de peindre pour tâcher de faire des choses aussi jolies. Tenez, voilà une petite qui a déjà compris comment étaient le chapeau et l'ombrelle, me dit Elstir en me montrant Albertine dont les yeux brillaient de convoitise. Comme j'aimerais être riche pour avoir un yacht, dit-elle au peintre. Je vous demanderai des conseils pour l'aménager. Quel beau voyage je ferai. Et une automobile. Est-ce que vous trouvez que c'est joli les modes des femmes pour les automobiles?
Non, répondait Elstir. Mais cela le sera. D'ailleurs, il y a peu de couturiers, un ou deux, Callot, quoique donnant un peu trop dans la dentelle, Doucet, Chéruy, quelquefois Paquin. Le reste sont des horreurs.
Mais alors, il y a une différence immense entre une toilette de Callot et celle d'un couturier quelconque ? Demandai-je à Albertine.
Mais énorme, mon petit bonhomme ! Me répondit-elle.
Oh, pardon ! Seulement, hélas, ce qui coûte 300 francs ailleurs coûte 2 000 francs chez eux.
Mais cela ne se ressemble pas. Cela a l'air pareil pour les gens qui n'y connaissent rien.
Parfaitement, répondit Elstir, sans aller pourtant jusqu'à dire que la différence soit aussi profonde qu'entre une statue de la cathédrale de Reims et de l'église Saint-Augustin. Tenez, à propos de cathédrale, dit-il en s'adressant spécialement à moi parce que cela se référait à une causerie à laquelle ces jeunes filles n'avaient pas pris part et qui d'ailleurs ne les eut nullement intéressées. Je vous parlais l'autre jour de l'église de Balbec comme d'une grande falaise, une grande levée des pierres du pays. Mais inversement, me dit-il en me montrant une aquarelle, regardez ces falaises. C'est une esquisse prise tout près d'ici, au Crenier. Regardez comme ces rochers puissamment et délicatement découpés font penser à une cathédrale. En effet, on eût dit d'immenses arceaux roses. Mais, peints par un jour torride, ils semblaient réduits en poussière, volatilisés par la chaleur, laquelle avait à demi bu la mer, presque passée dans toute l'étendue de la toile à l'état gazeux. Dans ce jour où la lumière avait comme détruit la réalité, celle-ci était concentrée dans des créatures sombres et transparentes qui, par contraste, donnaient une impression de vie plus saisissante, plus proche, les ombres. Altérées de fraîcheur, la plupart désertant le large enflammé, s'étaient réfugiés au pied des rochers, à l'abri du soleil. D'autres, nageant lentement sur les eaux comme des dauphins, s'attachaient aux flancs de barques en promenade, dont elles élargissaient la coque sur l'eau pâle de leur corps verni et bleu. C'était peut-être la soif de fraîcheur communiquée par elles qui donnait le plus la sensation de la chaleur de ce jour et qui me fit m'écrier combien je regrettais de ne pas connaître les creuniers. Albertine et André assurèrent que j'avais dû y aller 100 fois. En ce cas, c'était sans le savoir, ni me douter qu'un jour leur vue pourrait m'inspirer une telle soif de beauté, non pas précisément naturelle comme celle que j'avais cherchée jusqu'ici dans les falaises de Balbec, mais plutôt architecturale. Surtout moi qui, parti pour voir le royaume des tempêtes, ne trouvais jamais dans mes promenades avec Madame de Villeparisis, où souvent nous ne l'apercevions que de loin, peint dans l'écartement des arbres, l'océan assez réel, assez liquide, assez vivant, donnant assez l'impression de lancer ses masses d'eau et qui n'aurait jamais aimé le voir immobile que sous un linceul hivernal de brume, je n'eusse guère pu croire que je rêverais maintenant d'une mer qui n'était plus qu'une vapeur blanchâtre ayant perdu la consistance et la couleur. Mais cette mer, Elstir, comme ceux qui rêvaient dans ces barques engourdies par la chaleur, en avait jusqu'à une telle profondeur goûté l'enchantement qu'il avait su rapporter, fixé sur sa toile, l'imperceptible reflux de l'eau, la pulsation d'une minute heureuse. Et en voyant ce portrait magique, on ne pensait plus qu'à courir le monde pour retrouver la journée enfuie dans sa grâce instantanée et dormante. De sorte que si, avant ses visites chez Elstir, avant d'avoir vu une marine de lui ou une jeune femme, en robe de barège ou de linon dans un yacht arborant le drapeau américain, mis le double spirituel d'une robe de linon blanc et d'un drapeau dans mon imagination, qui aussitôt couva un désir insatiable de voir sur le champ des robes de linon blanc et des drapeaux près de la mer, comme si cela ne m'était jamais arrivé jusque-là, je m'étais toujours efforcée devant la mer d'expulser du champ de ma vision aussi bien que les baigneurs du premier plan, les yachts aux voiles trop blanches comme un costume de plage, tout ce qui m'empêchait de me persuader que je contemplais le flot immémorial qui déroulait déjà sa même vie mystérieuse avant l'apparition de l'espèce humaine et jusqu'au jour radieux qui me semblait revêtir de l'aspect banal de l'universel été cette côte de brume et de tempête, y marquait un simple temps d'arrêt, l'équivalent de ce qu'on appelle en musique une mesure pour rien. Maintenant, c'était le mauvais temps qui me paraissait devenir quelque accident funeste, ne pouvant plus trouver de place dans le monde de la beauté. Je désirais vivement aller retrouver dans la réalité ce qui m'exaltait si fort, et j'espérais que le temps serait assez favorable pour voir du haut de la falaise les mêmes ombres bleues que dans le tableau d'Elstir. Le long de la route, je ne me faisais plus d'ailleurs un écran de mes mains comme dans ces jours où, concevant la nature comme animée d'une vie antérieure à l'apparition de l'homme, et en opposition avec tous ces fastidieux perfectionnements de l'industrie qui m'avaient fait jusqu'ici bâiller d'ennui dans les expositions universelles ou chez les modistes, j'essayais de ne voir de la mer que la section où il n'y avait pas de bateau à vapeur, de façon à me la représenter comme immémoriale, encore contemporaine des âges où elle avait été séparée de la terre, à tout le moins contemporaine des premiers siècles de la Grèce, ce qui me permettait de me redire en toute vérité les vers du père Leconte cher à Bloch. Ils sont partis, les rois des nefs éperonnés, emmenant sur la mer tempétueuse, hélas, les hommes chevelus de l'héroïque Hellas. Je ne pouvais plus mépriser les modistes, puisqu'Elstir m'avait dit que le geste délicat par lequel elle donne un dernier chiffonnement, une suprême caresse aux nœuds ou aux plumes d'un chapeau terminé, l'intéresserait autant à rendre que celui des jockeys, ce qui avait ravi Albertine. Mais il fallait attendre mon retour pour les modistes à Paris, pour les courses et les régates à Balbec, où on en donnerait plus avant l'année prochaine. Même un yacht emmenant des femmes en linon blanc était introuvable. Souvent, nous rencontrions les sœurs de Bloch que j'étais obligée de saluer depuis que j'avais dîné chez leur père. Mes amis ne les connaissaient pas. « On ne me permet pas de jouer avec des Israélites, » disait Albertine. La façon dont elle prononçait « israélite » au lieu d'israélite aurait suffi à indiquer, même si on n'avait pas entendu le commencement de la phrase, que ce n'était pas de sentiment de sympathie envers le peuple élu qu'étaient animées ces jeunes bourgeoises de familles dévotes et qui devaient croire aisément que les Juifs égorgeaient les enfants chrétiens. « Du reste, elles ont un sale genre, vos amies, » me disait André avec un sourire qui signifiait qu'elle savait bien que ce n'étaient pas mes amies. « Comme tout ce qui touche à la tribu, » répondait Albertine sur le ton sentencieux d'une personne d'expérience. À vrai dire, les sœurs de Bloch, à la fois trop habillées et à demi nues, l'air languissant, hardi, fastueux et souillon, ne produisaient pas une impression excellente. Et une de leurs cousines, qui n'avait que 15 ans, scandalisait le casino par l'admiration qu'elle affichait pour mademoiselle Léa, dont M. Bloch père prisait très fort le talent d'actrice, mais que son goût ne passait pas pour porter surtout du côté des messieurs. Il y avait des jours où nous goûtions dans l'une des fermes-restaurants du voisinage. Ce sont les fermes dites des Écors, Marie-Thérèse, de la Croix d'Erlan, de Bagatelle, de Californie, de Marie-Antoinette. C'est cette dernière qu'avait adoptée la petite bande. Mais quelquefois, au lieu d'aller dans une ferme, nous montions jusqu'au haut de la falaise, et une fois arrivés et assis sur l'herbe, nous défaisions notre paquet de sandwichs et de gâteaux. Mes amis préféraient les sandwichs et s'étonnaient de me voir manger seulement un gâteau au chocolat gothiquement historié de sucre ou une tarte à l'abricot. C'est qu'avec les sandwichs au Chester et à la salade, nourriture ignorante et nouvelle, je n'avais rien à dire. Mais les gâteaux étaient instruits, les tartes étaient bavardes. Il y avait dans les premiers des fadeurs de crème et dans les secondes des fraîcheurs de fruits qui en savaient long sur Combray, sur Gilberte. Non seulement la Gilberte de Combray, mais celle de Paris, au goûter de qui je les avais retrouvées. Ils me rappelaient ces assiettes à petit four, des mille et une nuits, qui distrayaient tant de leur sujet ma tante Léonie quand Françoise lui apportait un jour Aladdin ou la Lampe Merveilleuse, un autre Ali Baba le dormeur éveillé, ou Simbad le marin embarquant à Bassora avec toutes ses richesses. J'aurais bien voulu les revoir. Mais ma grand-mère ne savait pas ce qu'elles étaient devenues et croyait d'ailleurs que c'était de vulgaires assiettes achetées dans le pays. N'importe, dans le gris et champenois Combray, leurs vignettes s'encastraient multicolores, comme dans la noire église les vitraux aux mouvantes pierreries, comme dans le crépuscule de ma chambre les projections de la lanterne magique, comme devant la vue de la gare et du chemin de fer départemental, les boutons d'or des Indes et les lilas de Perse, comme la collection de vieux chines de ma grand-mère dans sa sombre demeure de vieille dame de province. Étendue sur la falaise, je ne voyais devant moi que des prés, et au-dessus d'eux, non pas les 7 ciels de la physique chrétienne, mais la superposition de 2 seulement, un plus foncé, la mer, et en haut un plus pâle. Nous goûtions, et si j'avais emporté aussi quelques petits souvenirs qui pût plaire à l'une ou à l'autre de mes amies, la joie remplissait avec une violence si soudaine leurs visages translucides, en un instant devenus rouges, que leur bouche n'avait pas la force de la retenir, et, pour la laisser passer, éclatait de rire. Elles étaient assemblées autour de moi, et entre les visages peu éloignés les uns des autres, l'air qui les séparait traçait des sentiers d'azur comme frayés par un jardinier qui a voulu mettre un peu de jour pour pouvoir circuler lui-même au milieu d'un bosquet de roses. Nos provisions épuisées, nous jouions à des jeux qui jusque-là m'eussent paru ennuyeux, quelquefois aussi enfantins que la tour prend garde, ou à qui rira le premier, mais auxquels je n'aurais plus renoncé pour un empire. L'aurore de jeunesse dont s'empourprait encore le visage de ces jeunes filles, et hors de laquelle je me trouvais déjà à mon âge, illuminait tout devant elles, et, comme la fluide peinture de certains primitifs, faisait se détacher les détails les plus insignifiants de leur vie sur un fond d'or. Pour la plupart, les visages mêmes de ces jeunes filles étaient confondus dans cette rougeur confuse de l'aurore d'où les véritables traits n'avaient pas encore jailli. On ne voyait qu'une couleur charmante, sous laquelle ce que devait être dans quelques années le profil n'était pas discernable.
Celui d'aujourd'hui n'avait rien de définitif et pouvait n'être qu'une ressemblance momentanée avec quelques membres défunts de la famille auxquels la nature avait fait cette politesse commémorative. Il vient si vite le moment où l'on n'a plus rien à attendre, où le corps est figé dans une immobilité qui ne promet plus de surprise, où l'on perd toute espérance en voyant, comme aux arbres en plein été des feuilles déjà mortes, autour de visages encore jeunes des cheveux qui tombent ou blanchissent. Il est si court ce matin radieux qu'on en vient à n'aimer que les très jeunes filles, celles chez qui la chair, comme une pâte précieuse, travaille encore. Elles ne sont qu'un flot de matière ductile pétrie à tout moment par l'impression passagère qui les domine. On dirait que chacune est tour à tour une petite statuette de la gaieté, du sérieux juvénile, de la câlinerie, de l'étonnement, modelée par une expression franche, complète mais fugitive. Cette plasticité donne beaucoup de variété et de charme aux gentils égards que nous montre une jeune fille. Certes, ils sont indispensables aussi chez la femme, et celle à qui nous ne plaisons pas, ou qui ne nous laisse pas voir que nous lui plaisons, prend à nos yeux quelque chose d'ennuyeusement uniforme. Mais ces gentillesses elles-mêmes, à partir d'un certain âge, n'amènent plus de molles fluctuations sur un visage que les luttes de l'existence ont durci, rendu à jamais militant ou extatique. L'un, par la force continue de l'obéissance qui soumet l'épouse à son époux, semble, plutôt que d'une femme, le visage d'un soldat. L'autre, sculpté par les sacrifices qu'a consentis chaque jour la mère pour ses enfants, est d'un apôtre. Un autre encore est, après des années de traverses et d'orages, le visage d'un vieux loup de mer, chez une femme dont les vêtements seuls révèlent le sexe. Et, certes, les attentions qu'une femme a pour nous peuvent encore, quand nous l'aimons, semer de charmes nouveaux les heures que nous passons auprès d'elle. Mais elle n'est pas successivement pour nous une femme différente. Sa gaieté reste extérieure à une figure inchangée. Mais l'adolescence est antérieure à la solidification complète, et de là vient qu'on éprouve auprès des jeunes filles ce rafraîchissement que donne le spectacle des formes sans cesse en train de changer, de jouer en une instable opposition qui fait penser à cette perpétuelle recréation des éléments primordiaux de la nature qu'on contemple devant la mer. Ce n'était pas seulement une matinée mondaine, une promenade avec Madame de Villeparisis que j'eusse sacrifiée aux furets ou aux devinettes de mes amis. À plusieurs reprises, Robert de Saint-Loup me fit dire que, puisque je n'allais pas le voir à Doncières, il avait demandé une permission de 24 heures et la passerait à Balbec. Chaque fois, je lui écrivis de n'en rien faire, en invoquant l'excuse d'être obligé de m'absenter justement ce jour-là pour aller remplir dans le voisinage un devoir de famille avec ma grand-mère. Sans doute me jugea-t-il mal en apprenant par sa tante en quoi consistait le devoir de famille et quelle personne tenait en l'espèce le rôle de grand-mère. Et pourtant, je n'avais peut-être pas tort de sacrifier les plaisirs non seulement de la mondanité, mais de l'amitié, à celui de passer tout le jour dans ce jardin. Les êtres qui en ont la possibilité, il est vrai que ce sont les artistes, et j'étais convaincue depuis longtemps que je ne le serais jamais, ont aussi le devoir de vivre pour eux-mêmes. Or, l'amitié leur est une dispense de ce devoir, une abdication de soi. La conversation même qui est le mode d'expression de l'amitié est une divagation superficielle qui ne nous donne rien à acquérir. Nous pouvons causer pendant toute une vie sans rien dire que répéter indéfiniment le vide d'une minute, tandis que la marche de la pensée dans le travail solitaire de la création artistique se fait dans le sens de la profondeur, la seule direction qui ne nous soit pas fermée, où nous puissions progresser avec plus de peine, il est vrai, pour un résultat de vérité. Et l'amitié n'est pas seulement dénuée de vertu comme la conversation, elle est de plus funeste, car l'impression d'ennui que ne peuvent pas ne pas éprouver auprès de leur ami, c'est-à-dire à rester à la surface de soi-même au lieu de poursuivre leur voyage de découverte dans les profondeurs,
ceux d'entre nous dont la loi de développement est purement interne, cette impression d'ennui, l'amitié nous persuade de la rectifier quand nous nous retrouvons seuls, de nous rappeler avec émotion les paroles que notre ami nous a dites, de les considérer comme un précieux apport, alors que nous ne sommes pas comme des bâtiments à qui on peut ajouter des pierres du dehors, mais comme des arbres qui tirent de leur propre sève le nœud suivant de leur tige, l'étage supérieur de leur frondaison. Je me mentais à moi-même. J'interrompais la croissance dans le sens selon lequel je pouvais en effet véritablement grandir et être heureux, quand je me félicitais d'être aimé, admiré par un être aussi bon, aussi intelligent, aussi recherché que Saint-Loup. Quand j'adaptais mon intelligence non à mes propres obscures impressions que c'eût été mon devoir de démêler, mais aux paroles de mon ami, à qui, en les redisant, en me les faisant redire par cet autre que soi-même qui vit en nous et sur qui on est toujours si content de se décharger du fardeau de pensée, je m'efforçais de trouver une beauté bien différente de celle que je poursuivais silencieusement quand j'étais vraiment seule, mais qui donnerait plus de mérite à Robert, à moi-même, à ma vie. Dans celle qu'un tel ami me faisait, je m'apparaissais comme douillettement préservé de la solitude, noblement désireux de me sacrifier moi-même pour lui, en somme incapable de me réaliser. Près de ces jeunes filles, au contraire, si le plaisir que je goûtais était égoïste, du moins n'était-il pas basé sur le mensonge qui cherche à nous faire croire que nous ne sommes pas irrémédiablement seuls et nous empêche de nous avouer que, quand nous causons, ce n'est plus nous qui parlons, que nous nous modelons alors à la ressemblance des autres et non d'un moi qui diffère d'eux. Les paroles qui s'échangeaient entre les jeunes filles de la petite bande et moi étaient peu intéressantes, rares d'ailleurs, coupées de ma part de longs silences. Cela ne m'empêchait pas de prendre à les écouter quand elles me parlaient autant de plaisir qu'à les regarder, à découvrir dans la voix de chacune d'elles un tableau vivement coloré. C'est avec délice que j'écoutais leurs pépiments. Aimer aide à discerner, à différencier. Dans un bois, l'amateur d'oiseaux distingue aussitôt ces gazouillis particuliers à chaque oiseau que le vulgaire confond. L'amateur de jeunes filles sait que les voix humaines sont encore bien plus variées. Chacune possède plus de notes que le plus riche instrument, et les combinaisons selon lesquelles elle les groupe sont aussi inépuisables que l'infinie variété des personnalités. Quand je causais avec une de mes amies, je m'apercevais que le tableau original, unique de son individualité, m'était ingénieusement dessiné, tyranniquement imposé, aussi bien par les inflexions de sa voix que par celles de son visage, et que c'étaient deux spectacles qui traduisaient, chacun dans son plan, la même réalité singulière. Sans doute les lignes de la voix comme celles du visage n'étaient pas encore définitivement fixées. La première mûrait encore, comme le second changerait. Comme les enfants possèdent une glande dont la liqueur les aide à digérer le lait, et qui n'existe plus chez les grandes personnes, il y avait dans le gazouillis de ces jeunes filles des notes que les femmes n'ont plus. Et de cet instrument plus varié, elles jouaient avec leurs lèvres, avec cette application, cette ardeur des petits anges musiciens de Bellini, lesquels sont aussi un apanage exclusif de la jeunesse. Plus tard, ces jeunes filles perdraient cet accent de conviction enthousiaste qui donnait du charme aux choses les plus simples. Soit qu'Albertine, sur un ton d'autorité, débita des calembours que les plus jeunes écoutaient avec admiration, jusqu'à ce que le fou rire se saisît d'elle avec la violence irrésistible d'un éternuement, soit qu'André mit à parler de leurs travaux scolaires, plus enfantins encore que leurs jeux, une gravité essentiellement puérile. Et leurs paroles détonnaient, pareilles à ces strophes des temps antiques, où la poésie encore peu différenciée de la musique se déclamait sur des notes différentes. Malgré tout, la voix de ces jeunes filles accusait déjà nettement le parti pris que chacune de ces petites personnes avait sur la vie, parti pris si individuel que c'est usé d'un mot bien trop général que de dire pour l'une « elle prend tout en plaisantant »
pour l'autre, elle va d'affirmation en affirmation. Pour la troisième, elle s'arrête à une hésitation expectante. Les traits de notre visage ne sont guère que des gestes devenus par l'habitude définitifs. La nature, comme la catastrophe de Pompéi, comme une métamorphose de nymphe, nous a immobilisés dans le mouvement accoutumé. De même, nos intonations contiennent notre philosophie de la vie, ce que la personne se dit à tout moment sur les choses. Sans doute ces traits n'étaient pas qu'à ces jeunes filles, ils étaient à leurs parents. L'individu baigne dans quelque chose de plus général que lui. À ce compte, les parents ne fournissent pas que ce geste habituel que sont les traits du visage et de la voix, mais aussi certaines manières de parler, certaines phrases consacrées, qui, presque aussi inconscientes qu'une intonation, presque aussi profonde, indiquent, comme elle, un point de vue sur la vie. Il est vrai que pour les jeunes filles, il y a certaines de ces expressions que leurs parents ne leur donnent pas avant un certain âge, généralement pas avant qu'elles soient des femmes. On les garde en réserve. Ainsi, par exemple, si on parlait des tableaux d'un ami d'Elstir, André, qui avait encore les cheveux dans le dos, ne pouvait encore faire personnellement usage de l'expression dont usaient sa mère et sa sœur mariées. Il paraît que l'homme est charmant. Mais cela viendrait avec la permission d'aller au palais royal. Et déjà, depuis sa première communion, Albertine disait comme une amie de sa tante « Je trouverais cela assez terrible. » On lui avait aussi donné en présent l'habitude de faire répéter ce qu'on lui disait pour avoir l'air de s'intéresser, de chercher à se former une opinion personnelle. Si on disait que la peinture d'un peintre était bien ou sa maison jolie, « Ah, c'est bien sa peinture !» « Ah, c'est joli, sa maison !» Enfin, plus général encore que n'est le legs familial, était la savoureuse matière imposée par la province originelle d'où elles tiraient leur voix et à même laquelle mordaient leurs intonations. Quand André pinçait sèchement une note grave, elle ne pouvait faire que la corde périgourdine de son instrument vocal ne rendît un son chantant, fort en harmonie d'ailleurs avec la pureté méridionale de ses traits. Et aux perpétuelles gamineries de Rosemonde, la matière de son visage et de sa voix du Nord répondait, quoi qu'elle en eût, avec l'accent de sa province. Entre cette province et le tempérament de la jeune fille qui dictait les inflexions, je percevais un beau dialogue. Dialogue, non pas discorde. Aucune ne saurait diviser la jeune fille et son pays natal. Elle, c'est lui encore. Du reste, cette réaction des matériaux locaux sur le génie qui les utilise et à qui elle donne plus de verdeur ne rend pas l'œuvre moins individuelle, et que ce soit celle d'un architecte, d'un ébéniste ou d'un musicien, elle ne reflète pas moins minutieusement les traits les plus subtils de la personnalité de l'artiste, parce qu'il a été forcé de travailler dans la pierre meulière de Saint-Lys ou le grès rouge de Strasbourg, qu'il a respecté les nœuds particuliers aux frênes, qu'il a tenu compte dans son écriture des ressources et des limites de la sonorité, des possibilités de la flûte ou de l'alto.